VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Morgane Guerrier-Camp en direct. Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 23 janvier 2018. À la une ce soir, en RDC, l'archevêque de Kinshasa dénonce la répression de marche. Restons inébranlables, a-t-il lancé aux manifestants. Au Tchad, la marche nationale de la société civile prévue jeudi est interdite. Plus de 30 pays ont conclu un partenariat à Paris en vue de poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Et en magazine, la mort de la légende sud-africaine du jazz, Hugues Masekela. Nous reviendrons sur sa carrière et son engagement contre l'apartheid. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Sénégal, reprise ce matin du procès Khalifa Sall, le maire de Dakar est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur près de 2 milliards de francs CFA. Le procès devrait être suspendu à 18h pour reprendre demain matin et s'étendre sur plusieurs jours. Des précisions avec Seydina Abagay.
En effet, les débats portent aujourd'hui sur la recevabilité de la constitution de l'État du Sénégal et de la ville de Dakar comme partie civile. L'État estime avoir subi un préjudice alors que la mairie de Dakar affirme qu'elle est la seule à pouvoir prétendre à ce statut. Auparavant, le procès a été ouvert par l'appel des témoins de la défense parmi lesquels figurent d'éminentes personnalités de la République comme le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, le ministre du Budget, l'ancien président de la République Abdoulaye Wade, entre autres. En attendant les débats sur le fond, le président du tribunal devra dans un premier temps statuer sur les problèmes de forme pour que le procès puisse réellement débuter. Habillé de grands boubous traditionnels de couleur blanche, le maire de Dakar est apparu en bonne mine devant ses centaines de militants qui ont très tôt envoyé la salle 4 du tribunal de Dakar pour le soutenir. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Les autorités tchadiennes ont interdit une marche nationale de la société civile prévue jeudi dans les grandes villes du pays. Une interdiction irrégulière, estiment les organisateurs qui maintiennent leur mot d'ordre. Cette marche vise à protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant dans un contexte de sévère récession économique depuis 2 ans. Nous y reviendrons en partie magazine. Restons inébranlable. Les mots de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo. Il dénonce les dernières répressions de marche par des forces de l'ordre. On fait le point avec Dili Diko.
Nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force, a proclamé le cardinal Laurent Monsengo après les violences de dimanche. Sommes-nous devenus une prison à ciel ouvert ? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des vieux scandant des cantiques religieux, munis de bibles, chapelets et crucifix ? S'est-il indigné. Il a dénoncé des policiers et des militaires plus armés que s'ils n'étaient sur un champ de bataille. « Nous irons jusqu'au bout », ont affirmé mardi les organisateurs des marches dans un communiqué demandant au peuple de Dieu de rester mobilisé pour répondre à son prochain appel. Au moins 6 personnes, selon le bilan provisoire des Nations Unies, ont été tuées à Kinshasa lors des marches organisées à l'appel d'un comité laïque de coordination proche de l'Église catholique. Les autorités parlent de 2 morts. Les intellectuels catholiques demandent au président Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il ne sera pas candidat. Son 2e mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections sont prévues le 23 décembre 2018.
En RDC toujours, la ministre congolaise des droits humains souhaite que les violences policières de dimanche à Kinshasa soient punies. Dans un entretien télévisé, elle a déclaré ne pas comprendre comment les forces de l'ordre décident d'ouvrir le feu. Dans le même temps, un porte-parole du gouvernement a salué le comportement professionnel de la police. Rappelez-vous, dimanche, au moins 6 personnes ont été tuées à Kinshasa, d'après les Nations Unies, dont la répression de marche contre le pouvoir, interdite par les autorités, qui font état de 2 morts. Au Nigeria, 6 agriculteurs ont été tués le week-end dernier par des éleveurs nomades dans le nord-est du pays, faisant suite à des dizaines de massacres intercommunautaires semblables ces dernières semaines. En novembre, 30 éleveurs peuls avaient été massacrés par des agriculteurs chrétiens de l'ethnie Bachama. Au Libéria, George Weah met en place son équipe. Le nouveau président a désigné les premiers membres de son gouvernement. Il est uniquement composé d'hommes et principalement des membres de son parti. La diplomatie revient proche de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Il a aussi désigné ses ministres qui devront être confirmés par le Sénat. Le président ougandais, Yoweri Museveni, salue la franchise des propos injurieux de son homologue américain, Donald Trump, allant à contre-courant de l'indignation exprimée par de nombreux dirigeants en Afrique et au-delà. « J'aime Trump parce qu'il parle avec franchise », a-t-il déclaré devant l'Assemblée législative d'Afrique de l'Est réunie à Kampala. Trois voitures de luxe appartenant à la famille de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ont été brièvement saisies par les autorités du Botswana voisin après un accident survenu alors qu'elles étaient exfiltrées de leur pays d'origine. La Rolls-Royce, la Porsche et la Range Rover roulaient en convoi, emmenées par un des fils de l'ex-première dame, Grace Mugabe, lorsqu'elles ont été légèrement endommagées dans un accrochage avec un autre véhicule. L'armée égyptienne accuse le général à la retraite Sami Anan d'avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle illégalement, affirmant qu'il avait commis des crimes selon une vidéo publiée sur sa page officielle Facebook.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un fort séisme d'une magnitude 7,9 a été signalé aujourd'hui dans le golfe de l'Alaska, ce qui a provoqué en pleine nuit des alertes et vigilance au tsunami sur une longue frange de la côte ouest canadienne et américaine. Elles ont finalement été levées par les autorités avant l'aube. Jacques Aristide.
Le tremblement de terre s'est produit aux petites heures du matin, 278 km au sud de l'île Kodiak, la plus vaste de l'Alaska. L'alerte tsunami concernait au départ l'Alaska et l'état de Colombie-Britannique au Canada, où les habitants ont été appelés à se mettre à l'abri. L'ensemble de la côte ouest des États-Unis, soit l'état de Washington, l'Oregon et la Californie, mais aussi Hawaï dans le Pacifique, avaient en outre été placés en état de vigilance. La mesure a ensuite été levée à Hawaï, en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington, tout comme en Colombie-Britannique. En Alaska, l'alerte a été maintenue jusqu'à 3 heures du matin. Le centre d'alerte du Pacifique a prévenu que sur la base des données disponibles, ce tremblement de terre aurait pu provoquer un tsunami destructeur. L'agence météorologique japonaise a dit surveiller la situation mais n'a pas émis d'alerte au tsunami. En 1964, un séisme de magnitude 9,2 près du détroit de Prince William en Alaska, suivi d'un tsunami, avait fait 125 morts.
30 pays ont conclu un partenariat ce mardi à Paris visant à poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Après cette réunion, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a consulté les principaux alliés des États-Unis sur la stratégie américaine. Nathalie Barge.
Pendant la rencontre, la France a gelé les avoirs de 25 entités et responsables d'entreprises syriens, français, libanais et chinois soupçonnés d'alimenter le programme syrien d'armes chimiques. Après cette réunion, Rex Tillerson a donné un aperçu de la stratégie américaine sur la Syrie à ses homologues de la Grande-Bretagne, France, Allemagne, Jordanie et Arabie Saoudite. Récemment, il a fait état d'une présence militaire américaine illimitée en Syrie dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à empêcher la résurgence de Daesh et à ouvrir la voie au départ éventuel du président Bachar al-Assad. Les négociations intersyriennes sous l'égide de l'ONU piétinent depuis des mois. De nouveaux pourparlers sont prévus jeudi et vendredi à Vienne. La Russie a aussi lancé une initiative de paix associant l'Iran et la Turquie, qui devrait réunir le pouvoir et les rebelles dans un congrès du dialogue national syrien le 30 janvier à Sotchi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Écho avec Eric Manirakiza.
Davos abrite le Forum économique mondial. Le premier ministre indien Narendra Modi a défendu la mondialisation et le libre-échange. Il a critiqué le protectionnisme cher au président américain Donald Trump et a promis de dérouler le tapis rouge aux investissements étrangers en Inde. Le nombre de milliardaires dans le monde en 2017 a connu sa plus forte hausse de l'histoire, à raison d'un milliardaire tous les deux jours. Parallèlement, la précarité ne cesse de croître chez les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, la pauvreté touche deux tiers de la main-d'œuvre, d'après l'OIT. La plupart des avions d'Air Algérie ont repris leur vol après une journée de grève de lundi qui a cloué au sol l'essentiel de la flotte de la compagnie nationale algérienne. Les stewards et hôtesses ont annoncé un nouveau préavis de grève pour réclamer notamment l'augmentation des salaires promis en 2017.
Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Les matchs du groupe C ce mardi.
Coup d'envoi, 19h, temps universel. Tout reste à faire dans ce groupe C où la Libye affronte le Rwanda pour une place en quart de finale et le Nigeria qui aura a priori la partie facile contre la Guinée équatoriale déjà éliminée. On écoute Amine Birouk sur place pour VOA Afrique.
Le Burkina Faso abat ses dernières cartes ce mercredi à Tanger. En effet, les étalons possèdent une infime chance de se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2018. Pour atteindre cet objectif, les hommes d'Amara Traoré, dit saboteur, devront battre le Cameroun par deux buts d'écart et espérer un succès du Congo devant l'Angola Agadir. Autant dire que les Burkinabés n'ont pas leur destin en main. Ils devront d'ailleurs proposer une production offensive un peu plus convaincante que lors de leur nul devant la Spalancas Negras ou leur défaite 2-0 face au Diable Rouge. Leur adversaire, le Cameroun, n'a qu'une seule visée, quitter le CHAN sur une bonne note. Il est vrai que les Lions indomptables ont manqué de réussite lors de leurs deux matchs devant le Congo et l'Angola. Un signe indien qu'il faudra enfin chasser pour rentrer au pays la tête haute. Depuis Tanger au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Les derniers matchs du groupe B hier.
À Casablanca, la finale du groupe B entre les deux équipes déjà qualifiées, Namibie et Zambie, a accouché d'un match nul, un but partout. Résultat, les Chipolopolo terminent premier de ce groupe. Ils affronteront le Soudan en quart de finale. La Namibie fera face au pays organisateur, le Maroc. À Marrakech, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient l'Ouganda. Dans un match sans enjeu, si ce n'est retrouver l'honneur, eh bien, Elephant et Cranes ont fait match nul 0-0. À défaut d'une victoire, Ibrahima Camara est satisfait du visage montré par les Ivoiriens.
L'idée qu'on avait, c'est de donner de l'espoir aux Ivoiriens. Donc on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour marquer. Malheureusement, on a pêché dans la finition. Je pense qu'on a progressé par rapport au match de la Zambie. Et à mon sens, si on continue de travailler comme on l'a fait, parce qu'on sent que plus la compétition avance, on est resté un peu plus longtemps ensemble, commencer à sortir la tête, mais malheureusement, voilà, au bout des trois matchs, faut faire les valises. Je pense que on peut regarder l'horizon avec un petit peu d'espoir. Quand même.
Ibrahima Camara, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. En face, son homologue pour les Ougandais savoure aussi de ne pas avoir encaissé une troisième défaite en trois matchs dans ce CHAN. On écoute Sébastien Desarbres.
Nous, l'important, c'était l'objectif du match. L'objectif du match, c'était de faire un bon match et de terminer devant la Côte d'Ivoire. C'était ça l'important, puisqu'on ne pouvait pas terminer ni premier ni deuxième du groupe. Donc, il y avait une troisième place à prendre. Et il fallait à la fois qu'on montre encore de bonnes choses dans le jeu collectif. Et on aurait préféré, c'est sûr, gagner le match, un jeu toujours pour le gagner. Tomber contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a fait largement jeu égal avec cette équipe et on aurait préféré gagner, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions.
Sébastien Desarbres, le sélectionneur de l'Ouganda.
Et demain, le Burkina Faso en ballottage défavorable pour la qualification.
Le Burkina Faso doit battre le Cameroun et espérer que l'Angola et le Congo-Brazzaville jouent le jeu, puisqu'un match nul entre ces deux équipes qualifierait les Diables Rouges et les Palancas Negras.
Le Maroc défend ses chances pour la Coupe du Monde 2026.
Oui, le comité marocain pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2026 a donné sa première grande conférence de presse à Casablanca. Ce n'est pas une candidature de figurant, c'est une vraie candidature, a lancé son président Moulay Hafid Al-Alami. On rappelle que le Maroc a un peu moins de 5 mois pour convaincre.
Merci Nicolas. Voilà Nicolas Pineau que vous retrouvez tous les lundis à 19h TU dans Sporama.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et de retour avec vous, Morgane Guiriec, place au dossier du jour. Première escale, le Tchad, où les autorités ont interdit aujourd'hui une marche nationale de la société civile prévue le 25 janvier. Toutefois, le collectif des organisations de la société civile a maintenu ce mouvement, dénonçant une interdiction irrégulière. Ce collectif proteste contre la mauvaise gouvernance, les injustices et les mesures antisociales prises, dit-il, par le gouvernement. Yacouba Ouédraogo a joint l'habillé Tourjouman, membre de la coalition Tournons la page.
Depuis plus de 20 ans, la malgouvernance est entretenue par le régime en place. C'est pour cela que la population ou bien les organisations de la société civile se sont engagées pour dénoncer l'injustice et ériger un système de gouvernance dans ce pays. Il n'est secret pour personne que la mauvaise gestion des ressources, que ce soit pétrolier, de ciment, or, etc., sont confisquées par le pouvoir. L'attribution des marchés publics fait beaucoup de choses dans ce pays. Si seulement que nous allons marcher, c'est parce qu'il y a une augmentation des prix des carburants sans que la population ne soit informé. Et aussi, l'augmentation également de l'IRPP.
C'est quoi l'IRPP?
C'est les impôts sur les revenus des personnes physiques. Ça veut dire que les impôts sur les salaires. Et aussi l'augmentation aussi des frais de communication. Et l'augmentation aussi des barrières alimentaires. Et aussi le transport. Quand on augmente déjà les carburants, et automatiquement le transport aussi augmente. De l'autre côté, nos conditions de diminution des salaires des fonctionnaires.
Le gouvernement a récemment renoncé à diminuer les salaires.
Diminution des salaires, que le gouvernement vient de renoncer à cela. C'est les abattements des salaires. Ça veut dire quoi? L'État a deux choses à faire sur les salaires. Premièrement, d'abattre les salaires. Ça veut dire quoi? Le but en tant que tel que les populations reçoivent, lorsque les travailleurs ont eu comme base, ils doivent diminuer le brut. Et aussi sur cela encore, ils ressortent encore, ils ont augmenté les impôts. Les impôts qui étaient seulement à 10,5 pour tous les travailleurs, ces impôts ont augmenté de 20 à 30%.
Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a interdit cette marche du 25 janvier. Ne craignez-vous pas la répression de la part des forces de l'ordre?
Sans doute, nous savons notre pays, nous savons dans quelle mentalité ces gens-là réagissent. Certainement, il y aura des répressions, il y aura des arrestations, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que le mot d'ordre de grève est encore toujours maintenu. C'est l'État qui nous fait parvenir par des SMS ou des sortes par des décrets liés à la radio et à la télé que la marche est interdite. Là où je vous parle, les organisateurs sont en concertation avec le ministre de l'Intérieur dans son bureau.
Les agences de voyage ont observé un mot d'ordre de grève lundi et ont suspendu leur mouvement suite aux négociations avec le ministre des Infrastructures. Les élèves aussi sont entrés dans la danse. Vous, OSC, vous prévoyez une grève ce 25 janvier. Ça va dans tous les sens.
Chacun a ses champs d'action. Les transporteurs, eux, ils luttent seulement que pour l'augmentation des prix des carburants. Mais de notre côté, les organisateurs de la société civile, nous ne luttons pas seulement pour l'augmentation des prix. En ce qui concerne les élèves, il faut comprendre que les élèves ne sont pas entrés dans la danse comme ça. Les élèves, ça s'est commencé par l'affaire des étudiants. On les impose de payer 28 000 francs. L'université de Ndiamena est collé au lycée Félicé Boy. C'est de cette manière, quand les étudiants grévaient, les policiers venaient, ils lançaient des gaz et ils sont entrés derrière les élèves dans les établissements. C'est pour cela que ces élèves dénoncent cela. Mais en dénonçant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans d'autres établissements qui ne sont pas touchés pour les perturber. Donc là, ça en est une autre chose.
L'AIBE Tourjouman joint N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burundi, le prix du carburant a augmenté depuis ce vendredi de 150 francs burundais. Le ministère de l'Énergie et des Mines explique que la dévaluation du franc burundais et de la hausse du prix du baril en sont les raisons. La population ne comprend pas la décision du gouvernement de toujours augmenter le prix à la pompe. Reportage à Bujumbura de Christophe Kourounziza.
Désormais, depuis ce vendredi, le litre de l'essence et du mazout passe de 2100 à 2250 francs burundais. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministère de l'Énergie et des Mines dans sa révision de la structure des prix intervenue ce matin. Pour le ministre concerné, cette nouvelle structure des prix est dictée par la variation négative du taux d'échange de la monnaie burundaise par rapport au dollar américain, mais également par rapport à la variation du prix sur le marché international. Dans les rues de la capitale Bujumbura, cette réduction Dupré intervient au moment où l'on a assisté dernièrement à une pénurie de ces produits qui aujourd'hui restent disponibles dans certaines stations. Cette fille, Raïssa Nicolio, qui prend quotidiennement le bus de transport, estime que cette hausse des prix est exorbitante.
Moi, je trouve que 150 francs pour par le litre, c'est trop beaucoup parce que tout va en fonction de l'essence, les voitures, du transport, même les aliments. Ça vient par des bus de transport et tout, donc tout va augmenter aussi rapidement que ça.
Et qu'est-ce que vous demandez ?
Le rabaisser, au moins 50 francs bon, peut-être, mais pas sur 50.
Les chauffeurs taxis que nous avons rencontrés nous ont également affirmé qu'ils ne vont plus avoir les clients qui avaient disparu ces derniers temps. Cette femme, la trentaine, estime que le gouvernement ne s'occupe plus du bien des ménages burundais car la vie devient très difficile.
C'est très dommage parce que les conséquences seront la flambée des prix et puis on dirait qu'on est dans un pays où il y a l'embargo. Parce que si tous les jours on entend l'essence, il y a la flambée des prix, il y a l'essence qu'on a augmenté les prix, il y a tout ça, et qu'est-ce que le pays fait pour le peuple. On aimerait que le pays sorte de cette crise.
Cet autre maman de deux enfants, Chantal, estime que le pays devra à tout prix sortir de cette situation.
Moi, je suis très inquiète par rapport au fait que nous n'avons pas le pouvoir d'achat qui augmente en parallèle pour garder l'équilibre financier que nous avions. Donc, c'est très inquiétant. Tous les jours, quand les prix montent, c'est rarement qu'on puisse voir que les prix reviennent à la normale. Si le prix du sucre est parti de 1600 à 2000, je n'ai jamais vu le prix du sucre revenir à 1600 francs le kilo. Ce qui dit maintenant que le prix du gazole a aussi augmenté, c'est que demain, on va voir que le kilo sera à plus de 3000 et ça ne va jamais revenir à 2000. Mais malheureusement, les salaires ne changent pas, donc la vie devient de plus en plus dure. Voilà.
L'association des transporteurs du Burundi a indiqué que cette hausse du prix à la pompe va avoir des répercussions sur quasiment tous les secteurs de la vie nationale. Il est à noter que le prix du ticket de transport vient de passer de 350 à 380 francs burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Washington a imposé de nouvelles taxes sur des panneaux solaires importés de Chine et sur les grandes machines à laver fabriquées dans plusieurs pays asiatiques. Le président américain Donald Trump vise à protéger les entreprises américaines et l'emploi. Pour analyse, Eric Manirakis a joint à New Jersey le professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton, Leonard Wanchekon.
Il est même possible que malgré les taxes de 30%, ces produits coûtent même moins cher que ceux que les entreprises américaines produisent. Surtout pour le panneau solaire, on devrait encourager plutôt l'importation pour faire la compétition aux entreprises américaines pour qu'ils en produisent à moindre coût, afin qu'il y en ait de plus en plus. Surtout en ce moment où on parle des questions d'environnement, et d'énergie, etc. Le Green Revolution ou bien Green Energy, tout ça, c'est pas le bon signal, quoi. C'est une décision politique, c'est pas une décision économique. Donc voilà, après le tax code, après la question d'immigration, alors il faut qu'il se présente comme le champion de l'Amérique.
Mais c'est un président qui met en application ce qu'il a promis aux électeurs et il a été élu.
C'est pas une stratégie intelligente. C'est pas très clair si ces électeurs vont vraiment bénéficier de cela. Parce que ces entreprises en question, ces emplois qui seront créés, ne sont pas nécessairement créés dans les petits villages de Pennsylvanie ou d'Indiana. C'est des trucs qui sont faits dans les grandes villes, dans des régions qui sont peut-être démocrates.
Ils prônent le protectionnisme et rejettent la mondialisation.
L'avantage est politique, mais je crois que la mondialisation est là pour rester. En fait, on ne peut pas en revenir au 19e siècle. Donc, la question, c'est d'aller par la négociation, par les échanges, pour que cela profite à tout le monde. Et puis, le plus important, c'est que la mondialisation, ça bénéficie d'abord aux États-Unis, parce que ça permet aux États-Unis, par exemple, de créer des marchés en Afrique, de créer des marchés en Asie, de créer des marchés en Amérique latine à des coûts réduits. Maintenant, dans le même temps, on a peur que les gens des pays moins développés ou la Chine puissent intervenir aux États-Unis et faire la compétition à l'interne. Ça n'a pas de sens. Ceux qui ont peur de la mondialisation, ça devrait normalement être les petits pays, quoi. Parce que, bon, ils craignent que les multinationales écrasent leur économie locale et tout le reste. Alors qu'ici, voilà, c'est plutôt le pays qui est censé être le plus grand bénéficiaire de la mondialisation qui est en train de le combattre. C'est tout simplement politique, hein, c'est tout.
Est-ce que vous pensez que cette politique de protectionnisme aura des conséquences néfastes sur les personnes moyennes?
C'est trop tôt pour le dire, parce que ce qui est important, c'est que la nationalité économique finit par s'imposer, quoi. On ne peut pas aussi facilement aller au contre-courant de l'histoire. Donc, je ne sais pas s'il aura un effet à long terme, mais à court terme, ça va être très limité, quoi. C'est les entreprises américaines, peut-être, qui vont être frappées le plus, et les consommateurs.
Leonard Wanchekon, professeur de sciences politiques et d'économie à l'université de Princeton.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Légende sud-africaine du jazz et figure de la lutte contre l'apartheid, le trompettiste et chanteur Hugh Masekela est décédé à 78 ans aujourd'hui. Idriss Fall revient sur les moments forts de sa vie.
Masekela a été élevé par sa grand-mère dans la petite ville de Witbank, entourée des mines de charbon.
They always cast. And they cursed the coal train that brought them to Johannesburg.
Dans Timela, il rend hommage aux travailleurs noirs qui partent en train vers les mines sud-africaines. Hugues Masekela fuit le régime de l'apartheid dans les années 1960 et rentre dans son pays après la libération de Nelson Mandela en 1990. Parmi ses plus grands tubes, Bring Him Back Home, ramenez-le chez lui, en hommage au futur Nobel de la paix qui a passé 27 ans en prison. Après un passage à Londres, il étudie à New York, puis fréquente les Jimi Hendrix, Marvin Gaye, Dizzy Gillespie, Maria Makeba, la chanteuse sud-africaine dont il tombe amoureux. Leur mariage dure 2 ans. Hugues Masekela aime les excès et s'est marié 4 fois. Il se dit accro à l'argent, accro aux drogues, accro à l'amour, accro au sexe et à la musique. En 2016, il remporte le prix de légende de l'année au MTV Africa Music Award et joue pour Barack Obama, le premier président noir des États-Unis. Adolescent, il avait reçu sa première trompette offerte par Trevor Huddleston, un prêtre engagé dans la lutte contre le régime de l'apartheid. La trompette est rythmée par une cloche de vache. Grazing in the grass. Masekela est décédé à Johannesburg, entouré de ses proches, après une courageuse bataille contre un cancer de la prostate.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec. Merci à toute la rédaction, sa collaboration et à vous pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook et sur voaafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.